Bonjour frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, ce matin, à ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous allons faire la lecture d'un passage que, certainement, l'un des passages que nous connaissons bien. Voilà, on va lire à partir du verset premier, s'il vous plaît. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort ou n'est pas pour la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas ou il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais quelqu'un qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem à moins de 3 kilomètres et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suit la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici. » et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolait la virent se lever soudainement et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et vois, ou viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre, ou ôtez la pierre, ou roulez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te loue ou je te remercie de ce que tu m'as écouté ou exaucé. Pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le aller. Amen. Frères et sœurs, dans cette histoire que nous avons lue et que sans doute nous connaissons même par cœur, je pense, il y a un détail que je voudrais m'entretenir à partir de cela avec vous ce matin. Ce détail se trouve dans les 2 premiers versets. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya de ses cheveux. Nous l'avons lu, frères et sœurs, le verset 5 nous dit que le Seigneur aimait Marthe, Marie et sa sœur. Et frères et sœurs, nous savons, non seulement parce que la Bible le dit, mais parce que chacun d'entre nous, nous l'avons vécu personnellement, combien le Seigneur nous aime. Et non seulement il nous aime, mais il nous a tant aimés, au point qu'il a donné son Fils afin que la mort n'ait plus de pouvoir sur nous, mais que nous ayons la vie. Dans ce passage, frères et sœurs, il y a plusieurs vérités qui ressortent. Nous n'aurons pas assez de toute cette journée pour en extraire toutes les vérités. Nous allons nous concentrer sur un aspect, mais je fais confiance que le Seigneur, l'Esprit qui est au milieu de nous, connaissant nos besoins, notre vie, ce qui nous attend, saura lui-même nous instruire au-delà de ce que je pourrais vous partager ce matin. Je ne pense pas que je puisse vous apporter quelque chose de nouveau pour la plupart. Peut-être pour d'autres, ça le sera. Mais je voudrais attirer notre attention sur ce verset 2. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Alors, d'ordinaire, quand on raconte une histoire, pour parler de quelqu'un d'une manière spécifique à ceux qui connaissent cette personne, on va faire référence à un événement passé. vécu. Mais ici, dans ce texte, ce passage dont il nous est parlé ici ne se passera qu'après la mort et la résurrection de Lazare. Alors, en lisant ce texte, je me suis dit que certainement, assurément, le Seigneur voudrait attirer notre attention sur ce qui va se passer après. Et que la mort et la résurrection de Lazare est une étape qui conduit à celle qui vient après. Bien sûr, nous pourrions parler, frères et sœurs, ce matin, du fait que la mort et la résurrection de Lazare parlent de l'état de tous les hommes. Nous sommes tous morts aux yeux de Dieu à cause de nos péchés, de nos iniquités. Cela a été dit dans les chants, et également notre frère qui nous a conduit, présidé la scène, etc. Et que le fait de rouler la pierre, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui a roulé la pierre parce qu'il est le seul vivant qui pouvait l'exécuter, le faire, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que nous, nous étions morts dans l'impossibilité nous-mêmes de nous sauver. Ça, c'est une réalité que l'Église doit savoir, que tous les hommes doivent savoir, que nous sommes perdus et sans l'intervention de Dieu, nous serions toujours perdus. Et que si aujourd'hui nous avons l'occasion d'entendre la voix de Dieu, de la comprendre, de la saisir, c'est parce que la pierre a été roulée. Et cette pierre-là, c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. Mais je voudrais vous parler du fait que c'est Marthe et Marie qui ont permis que la pierre soit roulée. Et si les sœurs n'ont pas roulé cette pierre, la voix du Seigneur ne serait pas parvenue à Lazare et Lazare serait mort, resterait mort. Et je voudrais particulièrement ce matin, frères et sœurs, nous concentrer ou plutôt nous conduire vers notre responsabilité par rapport à ceux qui sont morts. L'Église a la responsabilité, chaque croyant a la responsabilité de faire cet acte de rouler la pierre pour que la voix de Dieu parvienne à celui qui est perdu. Mais dans cette histoire, frères et sœurs, nous allons... Enfin, je voulais vous amener, frères et sœurs, à réaliser qu'il n'y a pas que Lazare qui est mort ici. La mort a commencé également son œuvre dans la vie de Marthe et Marie. Et c'est de la résurrection que de Marie en particulier, puisque on va se focaliser sur Marie, que je voudrais qu'on s'entretienne. Oui, c'est vrai, l'histoire de Lazare, c'est une histoire extraordinaire. Mais au travers de ce que je viens de vous dire, je crois que le Seigneur nous dit « Ne vous arrêtez pas à la mort et à la résurrection de Lazare. » C'est extraordinaire, c'est vrai, mais il y a quelque chose de plus encore. C'est l'histoire de Marie. Donc nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que le vrai objectif dans cette situation que le Seigneur cherche, c'est celle que Marie a vécu. Et je crois que c'est le même objectif que Dieu poursuit pour l'Église, mais également pour chacun d'entre nous. L'Église est l'objet de l'affection, de l'amour, de l'attention du Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes l'objet de l'attention et de l'amour de Dieu chaque jour. Et si on donnait l'occasion de rendre témoignage Je crois qu'il ne suffirait pas d'un mois ou de plusieurs jours pour rendre témoignage de ce que cela a été une réalité dans notre vie. Alors, frères et sœurs, je vais aller directement à l'histoire de Marthe et Marie avec le parfum. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Marc au chapitre 14. Verset 3. Pardon. Oui, verset 3. Oui, excusez-moi. Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Il tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher ou de grand prix. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers ou 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ou en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi on parle de cette femme ce matin. Voilà. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, en tout cas c'est ce que je comprends et je vous le partage, c'est que l'histoire de Marie fait partie intégrale de la bonne nouvelle. L'histoire de Marie et de l'annonce de l'évangile vont ensemble. Ils sont indissociables. En accomplissant cet acte de verser du parfum sur le Seigneur, Marie ne sait pas, mais elle était en train d'écrire l'évangile, la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Et Dieu voudrait que lorsque la bonne nouvelle est annoncée, on parle de l'histoire de cette femme. Et si le Seigneur veut que nous connaissions l'histoire de cette femme, ce n'est pas tant pour Marie elle-même, mais c'est pour l'enseignement qu'elle nous apporte. L'évangile, frères et sœurs, c'est le parfum de Christ qui doit être répandu dans le monde entier. Alors, il y a, deux mois, ma petite fille qui est en Nouvelle-Calédonie a envoyé une petite fiole de parfum. Et c'est la première fois qu'elle le fait d'ailleurs. Et je, la connaissant, elle a vraiment voulu me faire plaisir. Parce qu'elle compte les pièces. Et je crois que si elle a acheté ce parfum, c'est qu'elle a vraiment voulu me faire plaisir. Et lorsque je mets ce parfum, il y a toute l'affection de ma petite fille qui est dans ce parfum. Mais en même temps, ce parfum devient le mien. C'est-à-dire que tout lieu où je vais, quand ce parfum se répand, c'est le parfum de M. Katéko. Vous comprenez? Oui, frères et sœurs. Je vous raconte cette petite histoire pour que vous compreniez cette réalité vers laquelle je veux qu'on aille, frères et sœurs. Je ne sais pas si j'aurai largement le temps ce matin, mais je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions la même expérience que Marie. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Le Seigneur nous aime. Amen. Comme Marthe et Marie, dans les situations difficiles que nous vivons, nous crions vers celui qui nous aime. Dans l'attente que celui qui nous aime va intervenir en notre faveur. Et nous constatons que bien souvent, le Seigneur n'intervient pas comme nous on voudrait. Et lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons comprendre qu'il y a certainement un autre objectif que le Seigneur cherche s'il n'est pas intervenu au moment voulu. Ici, les deux sœurs sont allées plus qu'à l'extrême. La Bible nous dit que, nous l'avons lu tout à l'heure, que Marie a versé sur la tête du Seigneur le parfum, et ce parfum de grand prix, l'odeur, le parfum s'est répandu dans toute la maison. Et frères et sœurs, je crois également que lorsque l'Église adopte la même attitude que Marie, alors le parfum de Christ se répand. Je crois que tous nous sommes sensibles au parfum. Hein? Il y a des parfums qu'on retient, qu'on a senti au contact de quelqu'un, ou parce qu'on est entré dans un magasin, une parfumerie, et ce parfum, eh bien, on voudrait l'acquérir. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. L'Église est la bonne odeur. L'Église est le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et si, frères et sœurs, c'est une réalité dans la vie de l'Église, tous ceux qui sentent ce parfum sont attirés par ce parfum. C'est un parfum de vie. Je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que Marthe et Marie, lorsque le Seigneur a dit « roulez la pierre », Marthe a dit « Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. » Pourtant, la Bible ne le dit pas, mais comme c'est une coutume, il est fort possible que Lazare ait été embaumé de parfums, entouré de bandelettes parfumées. Mais malgré tout cela, c'est l'odeur de la mort que l'on sent. Et, frères et sœurs, je crois que l'objectif du Seigneur aussi ici, ça a été de que cette odeur de la mort ne se mélange pas avec le parfum de Christ. Sinon, ce qu'on va retenir, c'est toujours l'odeur de la mort. Frères et sœurs, jusqu'à cet instant de la mort de Lazare, Marie est propriétaire de ce flacon de parfum. Et ce flacon de parfum, je pense qu'il n'était pas destiné au Seigneur jusqu'à cet instant-là. Et lorsqu'on fait un petit peu de recherche dans le pays oriental, eh bien, la jeune fille va tout au long de sa vie acquérir, emmagasiner ce parfum. Toutes les jeunes filles. Et ce parfum ne sera brisé et répandu que le jour de son mariage, dans la nuit de noces, dans la chambre nuptiale. Donc nous pouvons comprendre, en déduire, frères et sœurs, que ce parfum était destiné à ça, jusque-là. C'est un parfum de grand prix. Il vaut plus de 300 deniers qui correspond au salaire d'un ouvrier pendant une année. Alors, je ne sais pas combien de temps elle a économisé ou elle a acheté petit à petit pour remplir ce flacon de parfum. Mais jusqu'à cet instant précis, il lui appartient et il n'était pas destiné au Seigneur. C'était son trésor. En vue certainement de son mariage. Mais ce parfum, pour atterrir, pour arriver à Marie, il a fait plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Parce que ce parfum, cette plante, se récolte sur les monts de l'Himalaya, en Inde, en Chine, entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Il faut donc aller chercher, vouloir. Et ensuite, il y a tout le temps de la préparation, etc. Il faut qu'il passe avant plusieurs étapes avant de devenir ce parfum. Et frères et sœurs, souvenons-nous que Marie, elle est habituée à être au pied du Seigneur et à se laisser enseigner, etc. De ce fait, il y a plusieurs réalités, vérités qui sont devenues véritables dans sa vie. Mais je crois que la volonté de Dieu était de permettre encore à Marie d'aller plus loin. Et je crois que c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Il y a des choses que nous avons compris, qui sont devenues des réalités dans notre propre vie. Mais je crois que l'objectif que Dieu cherche, c'est que nous allions encore plus loin. Et pour permettre à ce que ce parfum change de destinée, il y a eu la mort et la résurrection de Lazare. Frères et sœurs, Marie a ce flacon. Il peut parler de notre cœur, qu'il y a eu tout un cheminement dans notre cœur. Depuis de tant d'années que nous vivons avec Dieu, avec le Seigneur, il y a des choses qui sont devenues précieuses dans notre vie, devenues des réalités précieuses dans notre vie. Et le Seigneur veut que nous allions encore plus loin. C'est ça qui est beau avec Dieu. C'est qu'il y a toujours moyen de progresser, d'aller encore plus loin. Et le Seigneur va utiliser cette occasion de la mort de Lazare. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le tombeau de Lazare, il sent déjà la mort malgré les parfums certainement qu'on a mis, mais la mort a commencé son œuvre. Mais lorsque nous considérons Marie, nous pouvons réaliser également que la mort a commencé son œuvre. Voyez? Est-ce que Dieu voulait, en tout cas c'est ce que je crois et je vous le partage, frères et sœurs, c'est que Marie triomphe de cette vie de mort qui est en train de s'implanter. Alors, Je vais vous le lire, frères et sœurs, pour que nous ne perdions pas trop de temps. Mais dans le passage que nous avons lu, et on va essayer de reprendre un petit peu l'histoire depuis le début, pour comprendre qu'il y a là un cheminement intérieur qui correspond à ce que je suis en train de vous dire. Un chemin de mort qui a commencé lorsque Lazare est malade. Lorsque Lazare est malade, les sœurs ont crié au secours vers le Seigneur, comme chacun d'entre nous, frères et sœurs. Voyez? Et au fil des jours qui sont passés, il y a certainement eu l'inquiétude, la peur que Lazare vienne à décéder. Je ne sais pas si les messagers, ils ont rapporté à Marthe et Marie ce que le Seigneur a dit de rester encore 2 jours. Mais en tout cas, si c'est le cas, il y a eu certainement de la déception. Pourquoi le Seigneur est-il resté encore 2 jours? Pourquoi ne vient-il pas? Résultat, notre frère est mort. C'est le désespoir, c'est la déception, c'est la frustration, c'est l'incompréhension devant l'attitude du Seigneur. C'est peut-être même de la colère, mais il y a eu des pleurs, il y a eu des plaintes. La mort a commencé. Voyez, frères et sœurs, je voudrais vous amener à réaliser que quand de tels sentiments se trouvent dans le cœur d'un chrétien, la mort est en train de commencer. Il faut sortir du tombeau. En plus, il y a les critiques des amis. Voyez, comme si ça ne suffit pas, il y a les amis qui critiquent. Lui, qui a guéri l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas? Sans compter les rapporteurs qui ont insisté, mais qui rapportent de manière à ce que les choses prennent un autre tournant. Voyez? Frères et sœurs, je voudrais nous mettre vraiment en garde contre ça. Parce que ce sont des signes de la mort spirituelle dans la vie du chrétien. Frères et sœurs, nous tous, nous vivons des drames, des situations difficiles, etc. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, que dans tout ça, il y a le plan et la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous le savons. Mais bien parfois, lorsque nous sommes dedans, la foi est entamée. La mort entame notre foi. Marthe va dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, mais seulement maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. » Ce sont des choses que nous confessons. Mais lorsque le Seigneur lui dit, « Ton frère va revivre. » Elle dit, « Oui, je sais, au dernier jour. » Voyez? Et elle va même confesser, « Je crois que tu es le Messie qui doit venir. » Nous croyons que Jésus est le Messie. Nous croyons que Jésus est l'envoyé de Dieu. Nous croyons que Jésus est le salut de tous les hommes. Nous croyons ces choses. Nous croyons que Christ est la parole. Nous croyons que lorsque nous lisons la parole, nous entrons en contact avec Dieu et Dieu nous parle. Et que toute parole qui sort de la bouche de Dieu sont vérité. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce sont des choses que nous savons. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que nous savons, mais que nous croyons. Que ces paroles soient des vérités dans notre vie. Frères et sœurs, mais béni soit Dieu. Et il dira ici, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, dans le but que vous croyez. Frères et sœurs, vous croyez que les apôtres ne croyaient pas? Mais si, ils croient. Marthe et Marie aussi, ils croient. Mais il y a un niveau de foi dans lequel le Seigneur voudrait les emmener. Que la foi soit une foi véritable. Une foi qui ne faille pas, quelle que soit la situation que nous vivons ou que nous traversons. Une foi qui défie. Lorsque Marie, vous voyez, Marie, lorsqu'elle a entendu que Jésus est venu, elle n'est pas sortie. Elle est restée dans sa situation. Eh bien, parfois, frères et sœurs, nous passons par ces moments-là. On sait que le Seigneur parle, mais on a l'impression qu'on est fermé, on n'entend plus, on est cloisonné, parce que nos yeux sont rivés sur les choses que nous vivons. Mais lorsque Marthe lui dit, le maître est ici et il te demande, alors là, le processus de vie a repris. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Oui, Jésus est la résurrection et la vie. Et là où la parole du Seigneur est accueillie, la vie reprend. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, et nous encourager ensemble, pour dire, le Maître est ici. Il te demande, mon frère, il te demande, ma sœur, quel que soit ce que tu vis ou que tu traverses. Lorsque Marie, elle a entendu, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible nous dit qu'elle s'est levée promptement. Ne remettez pas à demain. Parce que demain, d'autres paroles de mort risquent de venir et encore de vous ensevelir. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la vie. Il y a quelque chose de formidable, d'extraordinaire que Dieu veut faire dans votre vie. Frères et sœurs, lorsque Marie se lève promptement, elle va vers Jésus. Elle ne va pas vers le tombeau. Elle va vers Jésus. C'est plus le temps de pleurer, frères et sœurs. C'est le temps de la résurrection. Ne tournons pas le dos à Jérusalem comme les disciples d'Emmaüs alors qu'ils savent que Christ est ressuscité. Il faut retourner à Jérusalem. La cité de la paix, parce que c'est là où est la paix. Elle nous parle de la présence de Dieu. Et lorsqu'elle arrive, elle se jette aux pieds du Seigneur. Cette femme a tellement eu l'habitude de se trouver là, aux pieds du Seigneur, que sa consolation, elle est aux pieds du Seigneur. Et lorsque nous allons aux pieds du Seigneur, nous faisons acte de soumission. Seigneur, tu es souverain dans ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Tu en es le maître depuis le jour où tu l'as rachetée. Je remets cette vie entre tes mains. Elle ne m'appartient plus. Qu'elle soit ce que toi tu veux. N'oublions pas, frères et sœurs, que notre maître nous a précédés dans cette attitude. Dans le jardin de Gethsémané, il a dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour dire, Seigneur, aide-moi à vivre ta volonté. Oui, c'est vrai, mon frère, ma sœur. C'est difficile. Oui, c'est vrai, frère et sœur. Je ne vis pas ce que tu vis. Tout ça, c'est vrai. Mais vous non plus, vous ne vivez pas ce que je vis. Vous n'êtes pas passé par le chemin par lequel je suis passé. Voilà. Il ne s'agit pas de savoir ce que tu vis ou ce que nous vivons, mais il s'agit, frère et sœur, de savoir ce que Dieu veut pour nous. Et lorsque, une fois, elle se trouvait là, au pied du Seigneur, soumise, reconnaissant la souveraineté du Seigneur, elle ouvre son cœur. Alléluia. Oui. Et lorsqu'elle ouvre son cœur pour dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle remet tout ce qu'il y a dans son cœur au Seigneur. La guérison est en train de se faire. Frères et sœurs, la Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, parce que lui-même prend soin de nous. Parce qu'il t'aime, mon frère, parce qu'il t'aime, ma sœur. Tu es l'objet de l'amour et de l'affection de Dieu. Tu le sais, mais je te le dis encore. Ne doute pas de l'affection et de l'amour de Dieu pour toi. Ne résiste pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va laisser ôter la pierre. Et lorsqu'elle laisse ôter la pierre, c'est le triomphe de la vie. La parole de Dieu va au fond du tombeau et ramène à la vie Lazare qui était mort. C'est le triomphe de la vie sur la mort. Et c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Passer par l'étape de la mort pour vivre le triomphe de la vie. Mais pour cela, c'est la responsabilité nous incombe. Quelle est cette pierre qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu? Est-ce le pardon? Est-ce la réconciliation? Est-ce l'incrédulité face à ce que tu vis? Ou je ne sais? Je voudrais vous encourager ce matin à dire, Seigneur, je veux rouler cette pierre parce que je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans la vie de cette église. Alléluia. Il n'y aura pas de gloire de Dieu dans la vie de cette église sans nous, frères et sœurs. Parce que la volonté de Dieu passe par chacun et chacune d'entre nous. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. On peut le répéter ensemble? Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Et frères et sœurs, je vais aller vite pour terminer. Pour dire que lorsqu'on a vécu ce processus, alors le trésor change de destination. Ce trésor de Marie change de destination, de destinataire. Voyez? Maintenant, Marie prend ce parfum qu'elle a amassé pendant toutes ces années, dans lesquelles certainement elle a engouffré toutes ses économies, je ne sais, pour dire, Seigneur, ce parfum, il est pour toi. Alléluia. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense que nous aurons d'autres occasions pour parler un peu plus en détail de tout ça, frères et sœurs, mais nous avons lu tout à l'heure, frères et sœurs, que l'Église, eh bien, Dieu répand au travers de l'Église la bonne odeur de Christ. Nous répandons, Christ répand au travers de nous cette bonne odeur partout où nous allons. Mais pour que cette bonne odeur soit répandu, il faut qu'il devienne le parfum de Christ. Ce n'est pas l'odeur de M. Catéco ou l'odeur de M. De Dieu ou de M. Guillot ou qui que ce soit, le pasteur, les anciens, le conseil d'administration. Non, ce doit être l'odeur de Christ. Et vous savez comme moi, frères et sœurs, si vous appréciez les parfums, qu'il y a des subtilités dans le parfum. Vous voyez? Il y en a qui ont une odeur boisée, fruitée, ambrée, etc., etc. Mais c'est subtil. Vous voyez? Mais l'odeur qui se dégage du parfum de Christ, c'est quelque chose qui demeure et qui apporte la vie. Lorsque cela est une réalité dans notre vie. Frères et sœurs, je vais aller vite pour dire que en offrant ce parfum, Marie a renoncé, ou peut-être a remis à plus tard son projet de mariage. Je ne suis pas en train de dire à ceux qui vont se marier qu'il faut remettre à plus tard. Béni soit Dieu pour mon frère et ma soeur qui se marient. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Mais, et la Bible nous dit ici, C'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça nous parle du renoncement, frères et sœurs. J'avais prévu ça, mais finalement le Seigneur me dit de faire ça. Alors, je vais changer de priorité. Ce parfum qui certainement exprime l'amour de la femme vis-à-vis du mari, eh bien, nous parle de l'amour de l'Église vis-à-vis de l'époux qui est le Christ. Alléluia. Elle nous parle aussi de l'offrande de sa vie. Elle a offert tout ce qu'elle avait. Et la Bible nous dit, je vous exhorte, frères, sœurs, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Offrir notre corps, ce n'est pas le corps physique, frères et sœurs. C'est notre vie. Elle choisit de mettre en premier le Seigneur. Voilà. Et de remettre à plus tard son projet. Parce qu'elle a compris que le Seigneur lui dit de faire ça avant. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Il nous parle aussi de l'unité. Le parfum s'est répandu, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première nuit, la nuit de noces, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et nous, frères et sœurs, l'Église est unie à Christ. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. L'unité de l'Église avec Christ. On pourrait continuer, mais je vais m'arrêter là, mais pour dire, frères et sœurs, que lorsque ce que je suis en train de vous dire devienne des réalités dans notre propre vie, frères et sœurs, le parfum de Christ est répandu. La bonne odeur de Christ. Et lorsqu'elle est répandue, il y a, frères et sœurs, des conséquences. Je vais m'arrêter là, mais je voudrais simplement laisser ces quelques paroles sur votre cœur pour que vous réfléchissiez, vous méditez là-dessus. Parce qu'en fait, frères et sœurs, le but de ma prédication n'est pas tant, bien que on parle du parfum de Christ, etc., mais que ce parfum soit répandu. Alléluia, pour que les morts reviennent à la vie. C'est-à-dire que l'Évangile soit répandu pour que ceux qui sont morts entendent. Et lorsque l'Église fait cette démarche, la parole de Dieu nous dit ceci, que si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. La guérison de notre pays passe par l'Église que nous sommes, frères et sœurs, parce que telle en a été la volonté de Dieu. Frères et sœurs, le salut de ceux qui sont autour de nous, nous prions, c'est vrai, mais Dieu veut que cela soit des réalités dans notre vie, afin que, frères et sœurs, lorsque la parole est annoncée, que le parfum de Christ soit répandu en même temps. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, grâce te soit rendue pour l'occasion qui nous a été donnée ce matin de partager ta parole, sans doute, Seigneur, avec beaucoup de faiblesse. Mais, Seigneur, je crois que toi qui es le Seigneur de l'Église, toi qui es l'époux de l'Église, toi qui es le maître de notre vie, eh bien, Seigneur, tu sauras, Seigneur, faire en sorte que ces vérités que nous avons partagées ce matin deviennent des réalités dans notre vie. Et que, Seigneur, nous ne bloquons pas ce processus que tu as mis en place, mais que, Seigneur, comme Marie, nous venions à tes pieds. Et que là, nous confessions, déposons nos fardeaux et nos soucis. Seigneur, accorde à nous tous grâce, fortifie en particulier le cœur de celui ou de celle qui, depuis quelque temps, est dans la peine, dans la souffrance, qu'il soit, au travers de ces quelques paroles partagées, renouvelé, encouragé, fortifié, que la vie reprend, que la victoire de la vie soit la sienne, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus, parce que nous croyons que, Seigneur, comme tu as triomphé de la mort, tu veux également que nous triomphons de la mort, parce que, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Fais ton œuvre dans le cœur de chacun. Bénis cette Église, afin que cette Église soit le parfum de Christ et que tous ceux qui en franchissent le seuil, eh bien, soient touchés par, Seigneur, le parfum qui émane de ta présence ici, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté. Parce que ta parole nous dit que, Seigneur, tes compassions et tes bontés, tu les renouvelles chaque matin. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.